écrivain, conférencier et formateur en entreprise, Cyril Javary est aujourd'hui l'un des meilleurs passeurs d'Asie. Grand spécialiste du Yiking, auquel il a consacré plusieurs ouvrages, il vient de publier chez Albin Michel « Yin Yang, la dynamique du monde ». Il nous initie dans cet ouvrage aux pensées par deux et nous invite, comme le souligne Daniel Elisseff dans sa postface, à déplacer le curseur de nos perceptions et de nos émotions. Il y a quelques années, nous dit Cyril Javary, on m'a offert une boîte de chocolat dont chacun était en forme de ce fameux cercle noir et blanc dont nous aurons longuement à parler. Le couvercle annonçait que la boîte contenait 22 bonbons yin, au praliné fondant recouvert d'un fin chocolat noir, et 22 bonbons yang, au praliné croustillant recouvert d'un fin chocolat blanc. Bon, jusque-là, vous suivez. Je me régalais par avance du raffinement gourmand qui avait recouvert le bonbon yin d'un praliné noir et fondant, et le bonbon yang d'un praliné blanc et croustillant. Quand ? Poursuivant la lecture du couvercle, je découvris que le chocolatier avait cru bon d'ajouter à sa savoureuse description une explication sociologique. Le symbole du yin et du yang, que forment les pralinés de cette boîte, représente dans la tradition orientale la complémentarité et l'équilibre des contraires. Le blanc et le noir, l'eau et le feu, le bien et le mal. Tout était dit. Non seulement l'unité primordiale du couplage yin-yang était brisée, mais la dynamique dont yin-yang est l'emblème depuis plus de 2000 ans se voyait réduite à une simplification moralisante. Eh bien finalement, je n'ai même pas goûté au chocolat. Alors pour savoir pourquoi il a préféré ne pas manger ses chocolats, on écoute Cyril Javary. Cyril Javary, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez intitulé votre dernier livre « Yin Yang, la dynamique du monde ». De quelle dynamique s'agit-il ?
Oh, tout simplement du fonctionnement des choses. Il est écrit quelque part dans le grand commentaire du Yiking « Yin Yang Zhuetta », ce qui signifie tout simplement « un coup Yin, un coup Yang, c'est comme ça que tout fonctionne ».
Très bien, voilà un bon début. Alors aborder le yin-yang revient à faire une histoire de la Chine et de toute sa philosophie, du coup.
D'une certaine façon, oui. Mais ce n'est pas l'histoire de la philosophie, c'est comment un couple de mots est devenu un emblème d'un fonctionnement de pensée qu'il faudra bien un jour se résoudre à appeler le penser par deux. Alors, effectivement, on ne peut suivre tout ça à la trace depuis l'apparition de l'écriture vers le XIIIe siècle sur les carapaces de tortue pour les pratiques oraculaires de l'époque qui petit à petit ont abouti au Yiking, le livre des changements. Et c'est pour ça que c'est pas inintéressant de voir que Yin-Yang, l'emblème du penser par deux, à son berceau dans le grand commentaire du Yiking. C'est l'histoire de toute l'évolution, d'une façon de penser qui s'est trouvée un nom emblématique de cette manière de voir les choses, de voir les deux côtés du mur en même temps, et donc de sortir des impasses dans lesquelles quelquefois le raisonnement unitaire nous bloque.
Surtout notre raisonnement occidental. Alors, vous commencez par une analyse de l'article Yin et Yang sur Wikipédia, qui vous permet de dire ce qu'il n'est pas, finalement, ce Yin-Yang.
Yin-Yang, en chinois, c'est un seul mot. C'est le nom d'un point de vue, d'une manière de voir les choses. À partir du moment où on met un article défini avant, l'article défini, il enferme. Vous avez le Yin et le Yang comme les deux potiches de chaque côté de la cheminée. Alors qu'en fait, il s'agit d'un système alternatif, alternant de fonctionnement des choses.
Il n'y a donc pas de yin et de yang, mais les deux en même temps. Il faut bannir l'utilisation du « et », puisque ces deux mots ne font qu'un. Donc, plus jamais, on ne doit dire yin et yang.
Mais oui, parce que la copule grammaticale, comme l'article défini, sépare les choses. Or, l'article défini n'existe pas en chinois. Et la copule grammaticale est toujours une idée d'entraide. Imaginez que vous avez un électricien chez vous qui va installer, vous savez, système électrique où on peut entrer par une porte et fermer par l'autre. S'il vous dit « le va et le vient », vous changez d'électricien, alors qu'il va vous installer hein, « va et vient ».
Effectivement, il y a aussi une manière de le prononcer. Alors pourquoi dit-on toujours « yin-yang » et pas l'inverse ?
C'est une question qui trouve sa réponse à deux niveaux. Le premier est donné par un proverbe chinois qui dit « tout commence toujours par un temps yin ». Et on vivait ça dans la Chine classique par le fait que, pour exprimer le fait que la vie de chacun avait commencé avant la naissance. Quand exactement, on ne peut pas le savoir précisément. Et donc, on ne souhaitait pas l'anniversaire dans la Chine impériale, mais tous les enfants qui étaient nés l'année passée, au premier jour de l'an, recevaient un an, une année d'âge. Donc, et c'est vrai que tout ce qui arrive a été précédé par un mouvement invisible. C'est pourquoi, par exemple, les Chinois fêtent le printemps, que nous appelons Nouvel An chinois, vers début février, c'est une fête mobile comme Pâques, alors que nous le fêtons le 21 mars. Les Chinois, à ce moment-là, nous disent « vous avez raison ». Il faut se méfier d'un Chinois qui dit « vous avez raison », c'est qu'il n'est pas d'accord. Dit vous avez raison parce que vers fin mars, les bourgeons éclosent. C'est la phase yang du printemps. Mais elle a été précédée par toute une phase yin, la montée de la sève depuis le bout des racines jusqu'aux bourgeons qui attendent ça depuis 6 mois. Et puis il y a une autre raison qui est très curieuse, qui se situe à un niveau bachelardien. Vous savez, ce niveau bizarre entre le conscient et l'inconscient qui fait que quand vous, dans une langue, vous avez des onomatopées, c'est-à-dire des syllabes qui ne sont qu'un bruit, mais qui n'ont pas de signification en soi, eh bien, vous avez toujours la syllabe en « i » avant la syllabe en « a ». Par exemple, vous ne jouez jamais à face ou pile. Vous n'allez jamais dans un bracabric. Ou bien, vous n'avez pas un canapé clac-clic. Des fois, ça passe crac-cric, ou bien les malfrats ne font jamais des frac-fric, etc., etc. On joue jamais au trac-tric. Et tout ça vient du latin, où on disait « quia inc, quia ac », c'est-à-dire « ici et là », jamais « là et ici ». Ou bien « préchi précha », ou bien « mimi cracra ». Ou bien, j'ose à peine le dire, pipi caca. Et dans le même ordre d'idées, en phonétique, la syllabe A et la syllabe O sont très proches. Et ben, vous apercevez que les pompiers, ils font toujours pimpant. Que les horloges, elles font toujours ding-dong. Que, par exemple, on danse le hip-hop maintenant. Et puis, le grand héros King Kong. Et d'ailleurs, on ne joue pas au pomping. Et donc, comme s'il y avait... Alors, les gens qui font de la phonétique vous disent que le « i » est plus facile à prononcer que le « a ». C'est vrai qu'il faut moins ouvrir la bouche. « I, a ». Et ce qui pourrait leur donner raison, c'est que quand il s'agit d'une onomatopée qui exprime un effort, à ce moment-là, c'est le contraire. « Oh, is !» Et donc... Ce IA, c'est tellement évident que même un âne peut le comprendre. Les ânes, qu'est-ce qu'ils disent ? Yin-yang !
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'aspect universel de ce principe.
En tout cas, dans son énonciation, il y a quelque chose qui a l'air de correspondre. Parce qu'on en trouve des exemples dans des tas d'autres langues. En anglais, par exemple, faire du bruit, ça se dit riff-raff. En chinois, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire jingle jangle. Ou bien, alors en chinois, le gazouillis des hirondelles, ça se dit ninan. Et par exemple, les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font comme bruit? Chichi cha cha. C'est comme ça qu'on dit tweeter en chinois.
Ouais, qui est joli. Alors, est-ce que finalement... C'est parce que les Chinois n'ont pas de verbe être qu'ils ne conçoivent pas le monde de la même façon.
Ben, oui, parce que le verbe être, c'est l'essence des choses. C'est le pilier fondamental du mode de pensée occidental. Si vous retirez le verbe être de la philosophie, il n'y a plus grand-chose qui reste. Hein. Alors qu'en chinois, il n'y en a pas besoin, parce qu'en chinois classique, les adjectifs sont des verbes d'état, et non pas des attributs. Pour dire en chinois « la rose est rouge », on va dire simplement « rose, rouge ».« Hua, hong », parce que « hong », ce n'est pas l'adjectif rouge, c'est le fait d'être rouge. Et donc, cette idée d'essence immuable des choses, qualifiée par le verbe être, vous êtes un homme, vous êtes une femme, eh bien, non. Et ce n'est pas pour rien que les Chinois ont organisé leur mode de pensée sur un ouvrage qui s'appelle le Livre des Changements, et non pas le Livre des Essences.
Ça, c'est tout à fait vrai. Alors, quel rapport y a-t-il entre le physicien Niels Bohr, la physique quantique et l'emblème bien connu du yin-yang? Et vous abordez ça dans votre livre, ce qui m'a beaucoup étonné.
Alors, vers la fin des années 20, Niels Bohr reçoit le prix Nobel pour ses travaux sur la physique quantique. Mais tout juste après la guerre, il reçoit la médaille, l'ordre de l'éléphant blanc, qui est la médaille la plus importante du pays de Danemark. Et donc il se choisit un blason, et sur son blason il prend le dessin du yin-yang et il écrit au-dessus « oppositia sunt complementaria », les opposés sont complémentaires. Ce qui est une phrase qui sera reprise à l'envi, mais de toute façon Niels Bohr disait, quand il parlait de la physique quantique, il dit « si vous avez compris la physique quantique, c'est qu'on vous l'a mal expliqué ».
Bon, bah alors, c'est que, effectivement, je ne l'ai pas compris, c'est que. Voilà.
C'est bon.
Voilà. Peut-être un mot, justement, sur ce dessin du Tai Chi, je ne sais pas si on le prononce exactement comme ça, qui n'est pas propre à la Chine. Et alors là, ça, je pensais que ce n'était que chinois, cet emblème.
Donc, le Tai Chi Tu, ce dessin du grand retournement, qui commence à être assez familier. Vous avez ce cercle divisé par un S avec une partie blanche, une partie noire, et à l'intérieur de la partie noire, il y a du blanc, et à l'intérieur de la partie blanche. Bon. Sa simplicité et sa beauté géométrique fait qu'effectivement, sa représentation n'est pas propre à la Chine. On trouve des mosaïques romaines, par exemple au musée de Sousse, qui représente ce... Et puis on le trouve, si vous regardez attentivement, dans beaucoup de fenêtres rondes des cathédrales gothiques. En revanche, ce qu'il signifie est propre à la Chine. Et surtout, l'avoir choisi comme emblème du mode de pensée par deux est strictement propre à la Chine.
Et alors, pourquoi l'avoir choisi?
Parce qu'il évoquait à la perfection ce défi de la chinois qui est la représentation immobile du mouvement. Et que non seulement il nous montre que, un se divise en deux, qu'il y a toujours une partie yin, une partie yang dans d'autres situations, mais surtout il nous montre que la croissance de chacune des deux parties, et au moment de sa culmination, la naissance de son compagnon, et également, il nous donne à voir cette continuelle danse de yin-yang. D'ailleurs, vous savez, la meilleure façon de comprendre yin-yang, c'est avec son corps. Et pour ça, il y a deux moyens, le tango et le tuesho. Le tuesho, c'est, vous savez, vous êtes dans, c'est un mouvement de tai chi à deux, où on pose chacun sa main face à la main de l'autre, et puis il y en a un qui pousse et l'autre qui reçoit, puis arrivé à l'extension, ça change. Et là, on s'aperçoit toute cette danse de yin-yang, et le tango, c'est pareil, mais en plus musical.
Et donc, du coup, effectivement, cette danse, c'est bien le penser par deux dont vous parliez tout à l'heure, parce qu'il faut être deux pour faire la poussée des mains.
Exactement. Et ça, cette évidence du penser par deux, elle est, comment dire, monumentale pour les Chinois. Pourquoi? Pour deux raisons. Une raison qui est propre à la langue, et une autre raison, c'est que le penser par deux, les Chinois le vivent chaque jour. Sinon, ils mourraient de faim. Pourquoi ? Vous avez déjà essayé de... Nous, quand on mange, on a une cuillère ou une fourchette. La cuillère recueille, la fourchette pique. Bon, mais c'est deux outils différents. Vous avez déjà essayé de manger avec une baguette ? C'est assez difficile. Mais pour se servir des baguettes, il faut, et elles fonctionnent selon un mode yin-yang. Il y en a une immobile et une mobile. Et donc manger, c'est yin-yang par usage. Et puis il y a une autre raison très importante qui est que la forme interrogative n'existe pas en chinois. Nous, on ne se rend pas compte à quel point notre forme interrogative est une torture pour la grammaire. Dans toutes les langues du monde, vous expliquez les linguistes, la séquence fondamentale, c'est sujet, verbe, complément. Et bien, quand on fait une forme interrogative, on tord cela pour mettre le sujet après le verbe. Et en plus, on rajoute un point d'interrogation. Et les Espagnols, qui sont des gens précis, en mettent déjà un à l'envers au début de la phrase. En Chine, ça n'existe pas. C'est pas possible. Ça devient incompréhensible si vous intervertissez le sujet et le complément. Donc, comment vous posez une question ? Vous la posez de façon dialectique. Par exemple, avez-vous bien dormi ? Ben, ça se dit en chinois. Ni shui de hao, bu hao. Vous, avoir bien dormi ? Pas avoir bien dormi. Sous-entendu, rayer la mention inutile.
Ah oui, c'est le choix multiple. Est-ce qu'on pourrait définir le yin-yang par le mot harmonie ?
Non. Pas du tout, parce que d'abord, le yin-yang est un rapport en constante évolution. Le plus bel exemple de yin-yang et de l'incompréhension que nous en avons, c'est jour et nuit. Quand on veut dire que deux personnes sont complètement différentes, on va dire ça, c'est le jour, eux, c'est le jour et la nuit. L'opposition, toujours. Alors qu'en fait, chacun est le futur et le passé de l'autre. Le jour, c'est ce qu'il y a entre deux nuits. La nuit, c'est ce qu'il y a entre deux journées. Et le rapport entre le jour et la nuit n'est égal que deux jours par an, aux équinoxes. Et sinon, il est constamment changeant. Et il y a une partie de l'année où le jour augmente, c'est le printemps et l'été, jusqu'au 21 juin. Et puis l'autre partie de l'année, la durée du jour diminue par rapport à la nuit. Et donc, l'idée d'harmonie, elle est pour nous figé. Et de toute façon, c'est un excellent exemple du mode de pensée par deux. Là où nous avons un mot, les Chinois en ont deux. Pour dire harmonie, il y a deux mots chinois. L'un qui évoque l'harmonie du semblable, l'autre qui évoque l'harmonie du différent. Si vous voulez, par exemple, c'est le chant choral et le chant canon. Le chant choral, tout le monde chante la même chose. Le chant canon, les deux groupes ne chantent pas la même chose, mais c'est harmonieux. Car ce n'est pas la même chose, l'harmonie du semblable et l'harmonie du différent. Et un exemple de cela, c'est que pour nous, l'harmonie, c'est toujours 50-50.
C'est un équilibre.
C'est un équilibre, parce que pour nous, ce qui est bien balancé a toujours la forme d'une balance de Robert Val. Et ça, depuis les anciens Égyptiens, depuis les pharaons, la pesée de l'âme, ça se fait sur une balance à deux plateaux équilibrés. Eh bien, c'est pour les idées, pour les Chinois, c'est pas du tout cette idée-là de l'harmonie. Et je vais vous en donner un exemple un petit peu particulier, mais qui, je trouve, est assez parlant. Dans tous les bâtiments publics, vous avez des toilettes pour hommes et des toilettes pour femmes. Trois portes pour les hommes, donc trois portes pour les femmes. C'est équilibré, mais c'est pas du tout harmonieux. Pour que ça soit harmonieux, il faudrait deux portes pour les hommes et quatre portes pour les femmes.
Et pourquoi ?
Ben, vous le savez comme moi, que ça prend moins de temps pour uriner pour un homme que pour une femme.
Ah oui, il y a un aspect pratique des choses. Pour rester sur l'histoire des couplages, vous en donnez de nombreux exemples. Vous parlez de la panthère-tigre et tigre et dragon, qui ne désigne pas seulement un film de Ang Lee.
Non. Et avoir traduit le magnifique film d'Ang Lee par Tigre et Dragon, c'est avoir complètement émasculé l'idée du réalisateur. Le dragon est l'emblème du printemps. Il se dresse, il sort, bref, comme tout ce qui pousse au printemps. Le tigre blanc est l'emblème de l'automne. D'abord à cause de sa couleur, et ensuite parce qu'il s'accroupit quand il guette sa proie. Donc l'un se surgit et l'autre s'accroupit. Mais Ang Lee, avait donné à son film le titre « Dragon couché, tigre dressé ». C'est-à-dire qu'il avait accolé le verbe du tigre au dragon et le verbe du dragon au tigre. Parce que ce qu'il voulait montrer dans son film, c'est le yin du yang et le yang du yin. D'ailleurs, si vous regardez les personnages, le personnage masculin, Chow Yun-fat, il n'arrête pas de refuser le combat tout au long du film. Par contre, les deux personnages féminins, Michelle Yeoh et Zhang Zhiyi, la plus jolie peste du cinéma chinois, elle n'arrête pas de se bagarrer. Et on comprend qu'il ne faut pas trop l'énerver. Et que donc, c'est, en mettant juste tigre et dragon, on a réduit à néant la très magnifique idée de Ang Lee.
Bon, voilà comment une traduction peut complètement changer le sens.
Ce n'est pas une traduction, c'est qu'on a retiré deux mots du titre. En anglais, il l'avait gardé. Crouching Dragon, je ne sais pas quoi, Tiger. Enfin, voilà.
Puisqu'on a parlé des femmes dans Tigre et Dragon, j'ai l'impression que la femme dans la pensée yin-yang n'a pas une place énorme et que c'est plutôt le yang qui dominerait le yin, mais en fait, c'est sûrement plus subtil que ça.
Non, c'est pas plus subtil, c'est plus stupide que ça. Si on veut penser correctement yin-yang, il faut non seulement se débarrasser du verbe être, mais il faut se débarrasser du sexe. Ce sont des modes d'agir. Ce sont des yin et yang, c'est le nom d'un fonctionnement. Donc il faut les penser de façon vectorisée et non pas de façon statutaire. Et l'association entre yang et masculin, yin et féminin, casse tout. Alors, les Chinois sont responsables de ça. C'est les Han qui ont mis ça en place en pervertissant ces vecteurs pour en faire des attitudes. Les Han qui ont donc moins 200, plus 200, et qui ont ossifié tous les classiques chinois, comme Yin-Yang était apparu un petit peu avant, ils l'ont fait à leur sauce en disant, bon, puisque Yang est un processus d'extériorisation et Yin un processus d'intériorisation, les bonnes femmes à la cuisine et les mecs au café. Enfin, ils ne disaient pas comme ça les Han, mais c'est ce qu'ils pensaient. Okay. Et après, cette idée-là a été goulûment repris par les missionnaires qui, à l'équation yin égale femme, ils ont rajouté égale péché, yang égale homme égale beauté. Et on retrouvait Aristote et le malchauvinisme grec. Et donc le mariage entre le malchauvinisme chinois et le malchauvinisme grec nous donne cette stupidité qui est la sexuation de yin-yang. Yin et yang sont des stratégies. Si on veut prendre des exemples d'objets yin-yang, il faut prendre le mot chinois contradiction. C'est très intéressant, contradiction, ça se dit en chinois maotun, lance et bouclier. Tiens, déjà on voit que c'est bon d'avoir les deux, comme ça on peut attaquer et défendre. Parce que si on n'a qu'une lance, on est mal. Si on n'a qu'un bouclier, on n'est pas très bien non plus, mais... Si on a lu Astérix, on peut taper sur le soldat romain avec le bouclier. Et d'ailleurs, les stratégies yin sont moins spectaculaires, mais souvent beaucoup plus efficaces. Et je vais vous en donner un exemple qui est rarement utilisé, mais je trouve très parlant. Au printemps 1917, on décide l'offensive du chemin des dames. Parce que depuis le début de la guerre des tranchées, à l'automne 14, l'état-major, français comme allemand, n'avait qu'une obsession, percer le front ennemi. Donc on canonnait un endroit du front, après on envoyait, et le chemin des dames a fonctionné selon ce plan-là. Et quand après une trentaine de milliers de soldats hachés par les mitrailleuses allemandes, on a renvoyé le général Nivelle, on l'a envoyé à Limoges. C'est de là que vient l'expression limogé. À la place, on a nommé Pétain, le vainqueur de Verdun. Et Pétain, il a complètement changé de stratégie et il a inventé une stratégie qu'il appelait la piqûre d'abeille. C'est-à-dire une petite attaque sur toute la ligne de front, en pensant qu'il y aura bien un endroit où ça va craquer. Eh bien, nivelle, c'est la stratégie Yang. Pétain et la piqûre d'abeille, c'est la stratégie Yin. L'un privilégie la force en se concentrant dans un point, l'autre privilégie le temps en diluant sur toute la longueur du front.
Et pourtant, Pétain n'avait peut-être pas lu Sun Tzu.
Je pense qu'il n'avait pas lu Sun Tzu et que de toute façon, Sun Tzu n'en parlerait pas comme ça. Mais c'est surtout important, c'est que la piqûre d'abeille est une stratégie Yin. Mm-hmm. Et d'ailleurs même, il y a un art martial que l'on connaît sous son nom de judo. C'est la prononciation japonaise de deux mots chinois, jota, la voix de la souplesse. Et souplesse et fermeté sont les parents de yin-yang. Ce sont les mots les plus employés comme emblème du mode de pensée par deux, dans le yi-king, jusqu'à temps qu'on décide que ça sera yin-yang qui les remplacera. Et c'est là où on voit quelque chose qui est assez étonnant, qui est le passage, la naissance d'un emblème. Un emblème, c'est quelque chose qui a du sens indépendamment de sa signification. Par exemple, les mots yin et yang sont très vieux. On les trouve déjà dans le livre des Odes, un recueil de poésie écrit vraisemblablement vers le 9e siècle, à partir du 9e siècle avant l'ère commune, avec leur sens de ciel voilé et ciel clair. Ça, c'est leur signification. Et puis, au bout d'un millénaire, on a décidé qu'on allait les prendre comme emblème, comme représentant du mode de pensée par deux. Et ce qui peut nous faire comprendre ce qu'est un emblème dans le mode de pensée chinois, c'est le blason en héraldique médiévale. Comme les chevaliers étaient entièrement couverts de fer, pour savoir contre qui on se battait, ils avaient leur blason sur leur écu. Et l'écu valait le seigneur. Et quand par hasard il y avait un tournoi et que le seigneur ne pouvait pas venir y assister, il envoyait son bouclier. Et on mettait le bouclier sur la chaise et on s'agenouillait en passant devant pour lui rendre hommage. C'est ça un emblème. Et là, le bouclier ne servait plus de bouclier, mais de représentant du seigneur. Et yin-yang ne sert, quand il est employé comme emblème du mode de pensée par deux, il ne sert pas pour dire ciel voilé ou ciel clair, ou bien adret et ubac, qui sont ses significations. Mais là, il faut se demander pourquoi c'est ces mots-là qui sont choisis. Vous avez cité le couple tigre-panthère, etc. Pourquoi ce n'est pas tigre-panthère qui a été choisi pour dire yin-yang ? Eh bien, pour une règle simple de l'emblématique chinoise. Pour l'esprit chinois, un emblème n'est efficace que s'il applique à lui-même la loi qu'il décrit. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'on veuille classer, vous et moi, tous les adjectifs de la langue française en adjectifs courts, adjectifs longs. Donc, on prend deux cartons, on s'achète un Larousse et on commence. Clair, court. Ombrageux, long. Fort, court. Courageux, long. Court, court, long. Bug. Long est un adjectif court. Donc aux yeux de la pensée chinoise, il ne peut pas constituer un emblème. Or, yin-yang, les mots yin et yang, quand on analyse leur graphie, ils eux-mêmes se divisent en deux. Puisque l'essence les plus anciens de yin-yang, c'est pas tellement ciel voilé ou ciel clair. C'est passage de la pluie vers le soleil, fin d'orage. Passage du soleil vers la pluie, début d'orage. Et en haut également, adret ubac. Adret ubac, ça nous donne comme première information qu'il y a forcément, qu'ils ne peuvent pas être divisés par deux. D'où pas d'article défini, ce qu'on avait déjà. Et passage de fin d'orage, début d'orage, c'est cette continuelle danse qui va passer de l'un à l'autre. Et donc, yin-yang est à la fois statique et dynamique. Il applique à lui-même le fait que tout doit être pensé par deux. Et le plus bel exemple de cela a été donné par Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, je vais vous dire un scoop, il est né en Chine. Et donc petit, il a été éduqué, yin-yang. C'est normal, il baignait dedans comme tous les Chinois. Seulement quand après il faisait des discours théoriques, il ne pouvait pas parler avec les mots yin et yang. Ça faisait vieux jeu, ça faisait pas très révolutionnaire. Donc il a, dans un discours extraordinaire qui s'appelle « De la contradiction », justement, de la lancée du bouclier, il a commencé ce discours en disant « if and where are », un se divise en deux. Mais c'est exactement la description d'yin yang, mais avec des mots différents. Et après, alors il a fait ce discours parce que quand il s'était réfugié à Yan'an, à l'issue de la longue marche, dès que Chiang Kai-shek a appris ça, il a entamé la cinquième campagne d'encerclement et d'éradication de la base rouge de Yan'an. Sauf que les Japonais avaient attaqué, ils avaient déjà pris Pékin à cette époque-là, et donc les généraux de Chiang Kai-shek n'ont pas voulu se battre entre Chinois. Et ils ont capturé Chiang Kai-shek, ils ont arrêté Chiang Kai-shek. Et là, ils étaient un peu embêtés, mais parce que c'est une armée qui n'avait plus de chef. Sauf qu'ils se souvenaient que dans les romans de KPDP chinois, quand il y en a deux qui se bagarrent pour avoir le pouvoir, il y en a toujours un des deux qui est content d'avoir la tête de l'autre dans un panier. Et donc ils ont télégraphié à Mao Tse-tung, ils ont dit « on a arrêté Chiang Kai-shek, vous voulez qu'on lui coupe la tête ou vous préférez le faire vous-même » Enfin, je raconte bien sûr. Et Mao Tse-tung a immédiatement répondu « libérez-le immédiatement ». Et il a fait ce coup de poker extraordinaire « nous allons faire un front uni contre le Japon ». Et il a remis l'armée rouge sous commandement de Chiang Kai-shek, l'armée rouge qui le protège. Vous imaginez un duel dans le western, il y en a un des deux qui prend son revolver et qui le donne à l'autre. C'est ça. Donc ça, c'était assez extraordinaire. Mais surtout, le problème, c'est qu'il fallait expliquer aux soldats de l'armée rouge que les rares réactionnaires du Kuomintang étaient devenus des camarades de combat. Et donc, il a fait ce discours, « if and where, un se divise en deux ». Et il continue en développant, « toute situation se divise en une contradiction principale et une contradiction secondaire ». En ce moment, la contradiction principale, c'est que le Japon nous attaque. La contradiction secondaire, c'est la lutte pour le pouvoir. Mais aucune situation n'est stable. Après la Dreyfus, on a la dynamique. Au fil du temps, la contradiction principale va devenir secondaire et la contradiction secondaire va devenir principale. Et donc, quand nous aurons vaincu les Japonais, nous reprendrons la lutte pour le pouvoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est là où il s'est sorti de cette contradiction. Alors que nous nous enfermons dans ces contradictions. L'archétype de la contradiction dramatique, c'est le Cid. Et René-Louis Laforge décrivait le Cid en disant « Le Cid, c'est le problème de Chimène. » Et le problème de Chimène, c'est « Mais qu'est-ce qu'il est mignon, l'assassin de papa ?» Elle est cuite. Soit elle est une bonne fille et elle demande l'exécution de son amoureux, soit elle est une mauvaise fille et elle va convoler avec celui qui a tué son père. Dans tous les cas de figure, elle est fichue. Elle est prise dans une contradiction, c'est tragique. On aime parce qu'on est content que ça lui arrive à elle, pas à nous. Mais à nous, ça nous arrive assez souvent. Mais si Chimène avait été voir Confucius, on peut toujours rêver. Mais le vieux lui aurait dit, « Mais ma petite, ouvre le problème. » Regarde par la fenêtre ces bateaux qui arrivent. Tu sais, quand l'assassin de papa sera devenu le sauveur de la nation, ça arrangera beaucoup tes affaires. La contradiction principale sera devenue secondaire. Et que de penser yin-yang comme un système en perpétuel changement, comme le rapport entre le jour et la nuit, nous permet de sortir des contradictions qui sont des arrêts sur image. Et donc le mode de pensée... Par deux, le mode de pensée chinois, c'est tout simplement passer de la photo à la vidéo. Je vous assure, ça assouplit beaucoup de choses.
Mais du coup, nous n'aurions pas eu ni le théâtre, ni l'opéra quand même. Voilà, parce que si on reste sur ce mode de pensée, les vivants et les morts, en Chine, c'est pas comme chez nous.
Non, pas du tout. Le mode de pensée yin-yang apaise cet angoissant ravin que les religions de salut creuse entre les vivants et les morts. Pourquoi ? Parce que dans l'idée chinoise, les défunts ne sont pas morts. Ils sont allés vivre dans l'invisible. Ils sont allés vivre dans le yin. Et ce qui veut dire, entre autres choses, que les rapports entre, par exemple, parents et enfants, ce qu'on appelle sottement la piété filiale, ne s'arrêtent pas à la mort des parents. On continue à fêter leurs souvenirs, etc. Et donc, c'est une des choses, c'est extrêmement apaisant, cette pensée de. Parce que ça recrée ce lien entre ce que nous appelons les disparus. Mais pour nous, si on ne voit pas, ça n'existe pas. En signe, si on ne voit pas, c'est que c'est dans l'yin, c'est que c'est dans la nuit. Et c'est certainement une des choses que les Chinois m'ont le plus appris. Bon, c'est parmi ce que les Chinois m'ont appris, ce qui m'a le plus aidé. Par exemple, chaque fois que j'écris un nouveau livre, ben, je vais le montrer à mes parents, au cimetière du Père Lachaise. Parce que ce n'est pas parce qu'ils habitent ailleurs qu'ils n'ont pas le droit de savoir ce que leur fils écrit. Et donc, eh bien, tout simplement, je vais sur la tombe avec un livre, j'allume un bâtonnet d'encens. Parce que l'encens fait relais entre les mondes. Après tout, qu'est-ce que c'est qu'un bâtonnet d'encens ? C'est un solide qui va devenir une odeur, qui va passer du visible à l'invisible. Et voilà, et puis je mets le livre sur la tombe, et puis je leur raconte comment ça s'est passé, et puis voilà, et ça devient beaucoup plus supportable.
C'est la communication n'est pas rompue.
Absolument.
Alors en Chine, il n'y a pas de création du monde ex nihilo. Ça aussi, ça change avec nous.
Oui, mais ça vient d'une particularité historique de la civilisation chinoise, qui est que, à la différence de toutes les civilisations qui sont nées sur le continent eurasien, qui toutes sont nées de migration ou de conquête, les Chinois habitent depuis toujours le pays qu'ils habitent maintenant. Et ils y cultivent les céréales depuis que les céréales font partie du patrimoine de l'humanité, au bas mot 10 000 ans. Essayez, la prochaine fois que vous irez à la campagne, de demander à un paysan, dites-moi mon brave, quand est-ce que ça a commencé les saisons ? Si c'est un paysan chinois, il va vous regarder avec des yeux ronds, ce qui, vous le savez, chez les Asiatiques, est un signe d'étonnement profond. Il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que ça tourne, c'est que ça roule. C'est comme dans Yin Yang. C'est vrai que le mot changement, ça s'écrit avec soleil et pluie. Mais ce n'est pas la contradiction entre le soleil et la pluie. C'est le fait que, qu'est-ce qui fait que tout pousse ? C'est l'alternance entre le soleil et la pluie. Et j'ai cru pendant longtemps que de tous les peuples de France, ceux qui comprenaient le mieux le Yin Yang, c'étaient les Normands. Peut-être Ben Kin, peut-être Ben Kiang. Jusqu'à ce qu'on me cite un proverbe morvandiau, que je ne pourrais pas vous citer avec l'inimitable accent morvandiau, mais qui dit « le mauvais temps, c'est le temps qui change point ». Eh bien, c'est pas mal vu. Quand c'est tout le temps soleil, c'est la sécheresse. Quand c'est tout le temps pluie, c'est l'inondation. Quand c'est soleil, pluie, paysans contents, tout pousse magnifiquement.
Donc, les paysans du Morvan ont même combat que les paysans chinois. Alors, un bel exemple de Yin Yang, c'est aussi l'architecture. Vous expliquez cette histoire de poutres fêtières que j'ai trouvée intéressante. Et puis, évidemment, après, on peut parler de la cité interdite et de tout le reste. Mais le fondement de l'architecture.
Ce que nous avons appelé déjà le dessin Yin Yang, qui est aussi parfois appelé le dessin du Tao. Ce qui est une sottise, puisque Lao Tzu nous prévient dès le premier chapitre du Tao Te Ching, le Tao qui est énoncé n'est pas le Tao qui fonctionne, donc a fortiori celui qui est dessiné. Il s'appelle en chinois Taiji Tu. Taiji, ça veut dire effectivement la poutre fêtière. Et seulement, c'est encore un bel exemple de passage de photo à la vidéo. La poutre fêtière, c'est celle qui est en haut du toit. Alors avec la différence, c'est que dans l'architecture chinoise, elle est à l'extérieur, elle est sur le faîte du toit. Et dans la cité interdite, dans les bâtiments impériaux, embouchés de deux dragons. Et donc, pour nous, c'est le maximum de hauteur du toit. Photo. Oui, mais en chinois, vidéo. C'est l'endroit où le toit change de pente. Jusque-là, il montait, après, il descendait. Et c'est pour ça que Taiji a été choisi comme emblème de ce fonctionnement yin-yang. Et on ferait bien mieux de l'appeler le dessin du grand retournement, qui s'exprime par des dizaines de proverbes en chinois du style qui tous disent quand quelque chose est parvenu à son maximum, ça se transforme en son contraire. Et ça donnerait par exemple Taiji, donc soi-disant poutre fêtière. C'est aussi le nom d'un art martial très élégant qu'on appelle, il faut le faire quand même, la boxe de la poutre fêtière. Quand on voit des gens pratiquer le tai chi, on voit vraiment pas le rapport avec la boxe, ok? Ça s'écrit en chinois tai chi chuan. Chuan, c'est pas vraiment, ça veut pas dire boxer. Boxer, si on le dit autrement, ça veut dire enrouler. Et quand vous enroulez la main, effectivement, vous fermez le poing. Mais chuan, c'est le mouvement d'enroulement. C'est pour ça que ça peut vouloir dire aussi les rouleaux. Par exemple, chun chuan, les rouleaux de printemps. Ok ? C'est pas les rouleaux de la poutre fêtière. Et donc, cette histoire de grand retournement nous donne déjà une vision dynamique de yin-yang. Et non plus la vision statique, the yin and the yang.
Et même dans les échecs chinois, on retrouve ce fonctionnement yin-yang.
Mais dans n'importe quoi. Dans les échecs chinois, vous avez raison, il y a une rivière au milieu de l'échiquier. Et puis il y a les barbares et les chinois, comme il y a et la rivière en question, ça sera aussi la Grande Muraille qui fait la frontière entre la Chine et les non-chinois. Mais vous le retrouvez partout. L'un des exemples les plus courants, on s'en rend compte, c'est dans la cuisine. Vous avez déjà vu dans tous les restaurants chinois, il y a un plat de porc à l'aigre douce. Ok. Et ce qu'on appelle le potage pékinois s'appelle en chinois suan la tang, vinaigre, piment. Et regardez un autre exemple. Quelle est la couleur fondamentale de la Chine ?
Le rouge ou le jaune ?
Les deux, mon capitaine. Le couplage du rouge et du jaune. Vous le trouvez partout. Et en particulier sur le drapeau chinois, où il y a 5 étoiles jaunes sur fond rouge. Parce que le rouge est depuis 8000 ans la couleur de la joie et de la vie, et le jaune la couleur de la terre. On est déjà en yin-yang. Le rouge est tellement chinois que le Kuomintang de Chiang Kai-shek était rouge, avec dans un coin un soleil blanc sur fond bleu. Et tout comme le drapeau de l'armée rouge était rouge avec une faucille et un marteau en jaune. Et regardez autour de vous, le couplage rouge-jaune, il est absolument partout en Chine. Ou allez dans n'importe quel magasin chinois, dans n'importe quel restaurant chinois, vous allez le retrouver. Et c'est encore cette idée que c'est la vie et la terre.
Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que Xi Jinping conduit le pays de manière yin-yang ?
Je ne sais pas comment il conduit le pays, mais je sais que quand il analyse sa politique, il le fait d'une manière dialectique. Mais dialectique ne convient pas aux pensées par deux. Parce que dialectique, dia, ça veut dire différence. La dialectique grecque, c'est le choc des idées pour qu'émerge la vérité, pour qu'il y ait un vainqueur. Alors que Xi Jinping, par exemple, explique qu'il y a deux périodes dans l'histoire de la Chine nouvelle. Une première période de 30 ans qui est le maoïsme, une deuxième période de 30 ans qui est l'ouverture, Deng Xiaoping. Mais il ajoute, ces deux périodes sont la même dynamique. Sortir la Chine de la pauvreté, lui redonner la face et sa place dans le monde. Et que donc il est incorrect politiquement, dialectiquement, de vouloir utiliser l'une pour opposer l'autre. De dire que la politique de Deng Xiaoping est une négation de la politique de Mao, ou de dire que la politique de Mao est le contraire de la politique. Donc, elles sont chacune le jour et la nuit de l'avancée de la Chine vers le retour à sa place normale dans l'histoire du monde.
Eh bien, l'avenir nous dira si la politique de Xi Jinping fonctionne bien. Cyril Javary, merci. Merci donc à Cyril Javary pour cet éclairage sur son dernier livre paru chez Albin Michel, Yin Yang, la dynamique du monde.